RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonjour, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'heure suivante, magazine culturel qui sera continué avec l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons également présenter des chansons traditionnelles. Et cette fois, nous allons présenter des chansons de Kalimantan du Nord. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Les archives numériques sont un moyen de protéger le patrimoine culturel de l'ASEAN. Pour promouvoir le tourisme indonésien, ambassadeur indonésien en Chine utilise la stratégie 5S. L'IPIC encourage le gouvernement à surveiller la capacité des travailleurs étrangers. Le ministre du Commerce tente d'accroître les ventes de produits nationaux sur le marché. L'Indonésie et la Bulgarie renforcent la coopération dans le secteur de l'énergie. Lombok est prêt à recevoir la délégation du FMI. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. En commémorant de 45 ans d'amitié et de coopération entre l'ASEAN et le Japon, l'ambassade du Japon en Indonésie, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie, a organisé un séminaire sur les archives numériques du patrimoine culturel au secrétariat de l'ASEAN à Jakarta jeudi. Ce séminaire a été présenté par le professeur Dr. Ari Ide de l'Université de Kyoto et ouvert par le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour les affaires de la communauté et des entreprises, Dr. AKP Mohtan. Dans son discours, Mohtan a déclaré que l'initiative de ce séminaire était de protéger et de promouvoir tous les patrimoines culturels des pays de l'ASEAN à travers la numérisation de l'héritage.
Some of the heritages, however, are precarious and they may be endangered by
certains patrimoines sont précaires et peuvent être menacés par une urbanisation rapide, un trafic illicite, une catastrophe naturelle provoquée par les hommes. Si cela se produisait, les archives numériques pourraient être les seuls vestiges qui survivront aux tests instrasiens des temps et des progrès. La numérisation du patrimoine culturel est un effort pour assurer que cette relique survivra de génération en génération. Selon Dr. Mohtar, la numérisation des biens culturels utilisant la technologie numérique est très important pour aider la recherche et les études à être meilleures. L'ambassadeur indonésien en République populaire de Chine, M. Jauhari Oratmangun, qui vient d'être inauguré mardi, a déclaré que l'augmentation des touristes chinois en Indonésie est devenue l'une des principales priorités. Il a déclaré qu'il avait une stratégie spécifique pour y parvenir, qu'il appelle une stratégie de 5S. Il a été transmis aux journalistes au ministère des Affaires étrangères, Jakarta, jeudi. Le premier est le soleil. Là-bas, c'est difficile d'avoir le soleil. Nous avons le soleil. Le deuxième, la mer. Là-bas, la mer est très loin. Nous avons la mer. Le troisième est le sable. Le quatrième est le sourire des Indonésiens. S'ils rencontrent des visages souriants, ils sont heureux. Le cinquième est le service, dont 5S. Outre la beauté de la nature et d'autres, c'est la culture. Selon Jauhari Oratmangun, une stratégie similaire a déjà été utilisée en Russie lorsqu'il est encore ambassadeur en Russie. Jusqu'à présent, les arrivées des touristes de Chine vers l'Indonésie attendront environ 2 millions de personnes en 2017 et ciblées en 2018. Ce nombre augmentera de 20%. Selon les observations de Jauhari Oratmangun, les destinations touristiques de la Chine sont généralement Jakarta, Bali et Manado dans le nord de Sulawesi. Il a ajouté qu'il y aurait des vols directs de la Chine à Medan au nord de Sumatra et à Padang, l'ouest de Sumatra. Trina Fizanti, la directrice du Centre de recherche pour le développement des sciences et des technologies de l'Institut des sciences de l'Indonésie, ULIPI, a déclaré que le transfert de connaissances des travailleurs étrangers aux travailleurs locaux n'a pas encore fonctionné de façon optimale. Il nécessite le soutien du gouvernement, notamment le ministère de la Main-d'œuvre, le ministère de l'Industrie et le ministère de Recherche, de la Technologie et l'Enseignement supérieur. Ceci a été transmis par Trina Fizanti en marge de l'exposé de politique de plaidoyer relatif au renforcement des capacités des experts locaux à l'IPI Jakarta jeudi. Selon elle, les travailleurs étrangers qui travaillent en Indonésie ont besoin d'être surveillés de sorte qu'on peut savoir leur existence. Nous sommes conscients qu'il est en effet nécessaire de surveiller la réglementation pour les travailleurs étrangers. Surveiller, ce n'est pas facile car ils sont assez répandus dans l'entreprise. Maintenant, que peut-on faire avec le nombre limité de personnel du ministère du Travail, les superviseurs? C'est la clé. Il y a combien de superviseurs du ministère de la Main-d'œuvre? Si le nombre n'est pas assez, il n'y a pas de mal. S'il y a un indépendant qui fait cela, ce qui est important est la ligne directrice étant claire. Trina Vizanti a expliqué que beaucoup de travailleurs étrangers en Indonésie ont des difficultés de communiquer avec les travailleurs locaux lorsqu'ils travaillent en Indonésie. Elle a demandé au gouvernement de régler ces problèmes en encourageant les entreprises qui emploient des travailleurs étrangers à apprendre l'indonésien avant de travailler. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, M. Enggar Tiasto Lukita, a déclaré qu'à l'ère de l'économie numérique, la présence du commerce électronique ou du marché se développait en Indonésie. Mais malheureusement, les produits vendus dominaient les importations par les produits nationaux. Selon lui, au moins, ce phénomène est vu à partir du nombre de ventes de biens dans un marché où enregistrer plus de 90% des biens vendus sont des biens importés. Il a été dit par Enggar Tiasto Lukita dans un séminaire sur l'économie numérique à Jakarta mercredi.
Benar bahwa masih sebagian di dominasi atas produk-produk asing.
Il est vrai qu'il y a encore une certaine domination sur les produits étrangers comme ce qui est présenté par Blibli.com, une reconnaissance honnête et j'apprécie que plus de 90% des produits soient vendus à l'étranger, dont seulement 10% sur les produits domestiques. Et cela aussi, nous devons les pousser pour que nos produits de IKM ou petites et moyennes entreprises veulent entrer. Peut-être ils ne savent pas comment le commercialiser et aussi pour le marché lui-même. Ils se soucient moins de ceux qui viennent en conformité avec les critères qu'ils définissent, ils acceptent. Le ministre Engertia Solokita a ajouté que l'Indonésie devrait être en mesure de profiter de la présence numérique en devenant un acteur, pas seulement le marché. Ceci est fait en encourageant la vente des produits nationaux sur le marché ou marketplace. Par conséquent, jeudi, son côté a tenu une réunion avec les acteurs de marché pour fixer les termes de la quantité de produits étrangers et locaux vendus sur le marché. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, en coopération avec le gouvernement de la Bulgarie, pour accroître la coopération dans le domaine du mix énergétique. Cette coopération vise à augmenter le mix énergétique renouvelable de l'Indonésie de 23% en 2025. Ainsi, en 2025, la capacité installée de production d'énergie renouvelable dans ce pays est de 45 000 MW. Actuellement, la capacité installée est de 7 500 MW. Le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales, M. Ignatius Jonan, a déclaré à Jakarta jeudi que la coopération de Sustainable Off-Grid Electrification visait à augmenter l'énergie solaire qui pouvait être combinée et mélangée avec d'autres sources d'énergie électrique. Sur la base de l'énergie solaire, le projet futur utilisera l'énergie solaire comme complément aux transitions de l'énergie primaire. Le ministère du Tourisme estime que Lombok, Nusa Tenggara Ouest, est prêt à recevoir un forfait touristique de la délégation de réunion annuelle de la Banque mondiale et du FMI qui se tiendra à Bali en octobre 2018. L'agent du développement du marketing du ministère des Affaires étrangères du Tourisme, Monsieur Igede Pitana Amataram, a annoncé jeudi la préparation de Nusa Tenggara Ouest, notamment Lombok, peut être vue de l'infrastructure qui a été considérée comme bonne, le transport aérien et maritime, la bonne connectivité entre les régions. Le ministère du Tourisme a fixé 6 destinations qui deviennent le forfait touristique pour les délégués de la réunion annuelle de la Banque mondiale et du FMI, à savoir Bali Lombok, Bali Komodo, Bali Yogyakarta, Bali Toraja, dans le sud de Sulawesi, Jakarta Bali et Bali Laktoba, Sumatera du Nord. Afin de renforcer ces forfaits touristiques, le ministère indonésien du Tourisme, en collaboration avec le ministère de la Coordination des Affaires maritimes, a fait une recherche sur les forfaits vendus. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre Le tir dans les écoles américaines. Une fusillade d'un élève de Marjorie Stoneman Douglas à ses amis s'est produite à Parkland, en Floride, juste le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2018. Ce n'était pas le premier incident qui s'est produit aux États-Unis. L'agresseur, cette fois-ci, était un adolescent qui a tiré avec son arme et a causé la mort de 17 élèves en vain. En effet, les lois régissant la propriété d'armes aux États-Unis diffèrent d'un État fédéral à l'autre. La Floride est l'un des États fédéraux qui l'impose vaguement. Les étudiants préoccupés par ce dernier incident ont tenu plusieurs manifestations pour encourager le gouvernement des États-Unis à réglementer la propriété plus stricte des armes. Les représentants des étudiants et des parents ont même rencontré directement le président Donald Trump, lui demandant d'effectuer une supervision plus stricte. Au lieu d'obtenir de soutien, ils ont dû entendre l'idée de Trump d'armer les enseignants avec des fusils. Les parents s'opposent à cette idée parce qu'ils pensent que cela fait de l'école une arène de tir en cas d'attaque. Bien qu'ils ne soient pas d'accord avec Trump, certaines écoles ont toutefois suspendu les étudiants qui tenaient des manifestations anti-armes. Pour commémorer cet événement, une manifestation aura lieu le 14 mars 2018, exactement un mois après le tir de Floride et le 20 avril 2008 pour commémorer un incident similaire à Columbine High School dans le Colorado. Une série de fusillades qui a eu lieu dans les écoles aux États-Unis est très alarmante. Les établissements d'enseignement devraient être une source d'apprentissage positif pour les étudiants. L'école n'est pas une arène où l'on peut s'adonner à la violence, qu'elle soit physique, verbale ou émotionnelle. Il y a une diction anglaise qui met l'accent sur l'homme derrière le pistolet, ce qui signifie que l'homme dans cette diction est celui qui effectue le travail. Dans le cas du tournage en Amérique, cette diction peut être prise à la lettre. Une bonne personne tenant une arme peut faire du bien, sinon, si une mauvaise personne est derrière l'arme, des choses terribles peuvent arriver. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 23 février. Le 23 février 1923, Ahmad Dahlan, le fondateur de Muhammadiyah, est décédé. Ahmad Dahlan ou Muhammad Darwish est le héros national de l'Indonésie. Il est le quatrième fils de 7 frères et sœurs de la famille Abu Bakar. Ahmad Dahlan est le fils d'Ibrahim, qui a également dirigé le sultanat Nga Yogyakarta Hadiningrat à cette époque. Il est le 12e descendant de Maulana Malik Ibrahim, l'un des plus importants parmi Wali Songo, le précurseur de la propagation de l'islam à Java. À l'âge de 15 ans, il est allé en pèlerinage et est resté à la Mecque pendant 5 ans. Au cours de cette période, Ahmad Dahlan a commencé à interagir avec des idées réformistes dans l'islam de Muhammad Abduh al-Afghani, Rashid Rida et Ibnu Taymiyah. Quand il est retourné à son village en 1888, il a changé son nom à Ahmad Dahlan. En plus d'être actif dans la diffusion de ses idées sur le mouvement de propagation Muhammadiyah, il est également connu comme un entrepreneur qui a réussi assez bien avec le commerce du batik. Le 18 novembre 1912, Ahmad Dahlan a créé l'organisation Muhammadiyah pour mettre en œuvre les idéaux de la réforme islamique dans l'archipel. Depuis sa création, Dahlan a décidé que Muhammadiyah n'est pas une organisation politique, mais une organisation sociale qui s'engage dans l'éducation. L'idée de l'établissement de Muhammadiyah par Ahmad Dahlan a également gagné la résistance, à la fois de la famille et de la communauté environnante. Ahmad Dahlan est mort le 23 février 1923 et a été enterré dans la tombe Kajen Karang, Yogyakarta. Le 23 février 1970, le Guyana passe à la République. Le 23 février 1970, le système gouvernemental du Guyana est passé du système du gouverneur général à celui de la République. Le Guyana est un pays d'Amérique centrale. Au XVIIe siècle, le Guyana est devenu une colonie commune entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Mais depuis 1815, la Grande-Bretagne a pris le pouvoir sur le Guyana. En 1966, le Guyana a atteint l'indépendance et devenu membre du Commonwealth britannique. Le 23 février 1976, La mise en œuvre du premier sommet de l'ASEAN. Le sommet de l'ASEAN est un sommet annuel entre les dirigeants des pays membres de l'ASEAN. Le premier sommet de l'ASEAN a eu lieu à Bali du 23 au 24 février 1976. Le premier sommet de l'ASEAN a abouti à plusieurs décisions. La déclaration d'harmonie de l'ASEAN, l'accord de l'amitié et de la coopération en Asie du Sud-Est et l'accord sur l'accord de la création du secrétariat de l'ASEAN. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteurs du monde entier, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre Biopharma étudie la coopération avec divers pays. L'entreprise d'État PT Bio Farma continue à développer ses activités à l'étranger. Le président-directeur de PT Bio Farma, Rahman Rustan, a déclaré qu'il développerait un programme de coopération non seulement avec l'UNICEF, mais la coopération régionale qui serait également intensifiée. Après avoir tenu une réunion avec l'équipe de l'économie, des finances et de l'industrie du ministère des Affaires étrangères, qui a amené 6 ambassadeurs à visiter PT Bio Farma à Bandung lundi, Rahman Rustan a expliqué sa partie continuerait à coordonner avec l'ambassade de la République d'Indonésie. Rahman a déclaré l'évaluation sera menée lundi avec l'ambassade de la République d'Indonésie en Iran. Parce que PT Bio Farma estime l'Iran a beaucoup de potentiel qui peuvent être coopérés avec l'Indonésie. Selon Rahman, Bio Farma nécessite un transfert de technologie de l'Iran pour l'autoproduction. Le développement des médicaments en Indonésie devrait continuer à être fait. Il a expliqué, même si jusqu'à présent, son côté recevait toujours beaucoup d'aide de l'ambassadeur d'Indonésie dans certains pays, Bio Farma a vraiment besoin de conseils, de discussions et de soutien du ministère des Affaires étrangères ainsi que de l'ambassadeur d'Indonésie. En plus de coopération de fournir des vaccins, selon Rahman, Bio Farma veut également étudier la coopération potentielle de recherche ou coopération de production qui peut être synergique avec les pays amis. Selon lui, si auparavant il avait coopéré avec l'UNICEF, il espère qu'une réunion avec l'équipe de l'économie, des finances et de l'industrie du ministère des Affaires étrangères faciliterait l'accès à la coopération bilatérale grâce à l'assistance des ambassadeurs indonésiens. Rahman a déclaré en Iran aujourd'hui, PT Bio Farma a 3 partenaires. En Amérique latine, il y en a l'Argentine, le Brésil et le Cuba. Même pour l'Amérique latine, il y a déjà une coopération avec le Brésil, l'Argentine et le Mexique. Il a envoyé un vaccin semi-fini. Pendant ce temps, selon lui, la coopération est toujours faite avec les pays en développement à travers l'UNICEF, mais maintenant la coopération bilatérale est ouverte, à savoir l'Iran est ouverte pour le Moyen-Orient et le Mexique est ouverte pour l'Amérique latine. Il a affirmé il continuera à coordonner avec l'ambassade d'Indonésie dans la région. Selon lui, le potentiel le plus important à explorer est celui des produits à base d'herbes, comme tenu le potentiel de la biodiversité pour les produits à base de plantes en Indonésie, qui est assez important. Sa partie se concentre sur les produits de la biotechnologie, si bien que pour la coopération des produits à base de plantes, il va inviter 3 autres entreprises appartenant à l'État, à savoir Indopharma, Kimia Pharma et Fapros. Pendant ce temps, l'ambassadeur d'Indonésie en Iran et au Turkménistan, représentant la région du Moyen-Orient, Octavino Ali Moudin, a déclaré qu'il représente chaque région. Il peut recevoir des informations directes sur les efforts qui ont été faits par Bio Farma. Octavino estime la position de l'Indonésie en tant que producteur de vaccins et de sérums est très reconnue par le monde entier, même devient un nouveau potentiel de marché pour l'Indonésie à travers Biopharma. PT Biopharma a reçu la visite de 4 ambassadeurs dans le bâtiment du patrimoine de Biopharma. Ces ambassadeurs de la République d'Indonésie sont Octavino Alimuddin comme ambassadeur de la République d'Indonésie en Iran et au Turkménistan, représentant la région du Moyen-Orient, Amhar Azed, ambassadeur en Roumanie, représentant régional de l'Europe, Sudirman Hassan, ambassadeur au Cambodge, représentant régional de l'Asie du Sud-Est, et Estella Anwar Bey, ambassadeur d'Indonésie à Pérou, représentant régional de l'Amérique latine. Serviteur, c'est mon Indonésie pour ce soir.
En commémorant de 45 ans d'amitié et de coopération entre l'ASEAN et le Japon, l'ambassade du Japon en Indonésie, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie, a organisé un séminaire sur les archives numériques du patrimoine culturel au secrétariat de l'ASEAN à Jakarta jeudi. Ce séminaire a été présenté par le professeur Dr. Ari Ide de l'Université de Kyoto et ouvert par le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour les affaires de la communauté et des entreprises, Dr. AKP Mohtan. Dans son discours, Mohtan a déclaré que l'initiative de ce séminaire était de protéger et de promouvoir tous les patrimoines culturels des pays de l'ASEAN à travers la numérisation de l'héritage.
Some of the heritages, however, are precarious and they may be endangered by
certains patrimoines sont précaires et peuvent être menacés par une urbanisation rapide, un trafic illicite, une catastrophe naturelle provoquée par les hommes. Si cela se produisait, les archives numériques pourraient être les seuls vestiges qui survivront aux tests instantanés des temps et des progrès. La numérisation du patrimoine culturel est un effort pour assurer que cette relique survivra de génération en génération. Selon Dr. Mohtar, la numérisation des biens culturels utilisant la technologie numérique est très important pour aider la recherche et les études à être meilleures. L'ambassadeur indonésien en République populaire de Chine, M. Jauhari Oratmangun, qui vient d'être inauguré mardi, a déclaré que l'augmentation des touristes chinois en Indonésie est devenue l'une des principales priorités. Il a déclaré qu'il avait une stratégie spécifique pour y parvenir, qu'il appelle une stratégie de 5S. Il a été transmis aux journalistes au ministère des Affaires étrangères Jakarta jeudi. Le premier est le soleil. Là-bas, c'est difficile d'avoir le soleil. Nous avons le soleil. Le deuxième, la mer. Là-bas, la mer est très loin. Nous avons la mer. Le troisième est le sable. Le quatrième est le sourire des Indonésiens. C'est rencontre des visages souriants. Ils sont heureux. Le cinquième est le service, dont 5S. Outre la beauté de la nature et d'autres, c'est la culture. Selon Jauhari Oratmangun, une stratégie similaire a déjà été utilisée en Russie lorsqu'il est encore ambassadeur en Russie. Jusqu'à présent, les arrivées des touristes de Chine vers l'Indonésie atteindront environ 2 millions de personnes en 2017 et ciblées en 2018. Ce nombre augmentera de 20%. Selon les observations de Jauhari Oratmangun, les destinations touristiques de la Chine sont généralement Jakarta, Bali et Manado dans le nord de Sulawesi. Il a ajouté qu'il y aurait des vols directs de la Chine à Medan au nord de Sumatra et à Padang, l'ouest de Sumatra. Trina Fizanti, la directrice du Centre de recherche pour le développement des sciences et des technologies de l'Institut des sciences de l'Indonésie, ULIPI, a déclaré que le transfert de connaissances des travailleurs étrangers aux travailleurs locaux n'a pas encore fonctionné de façon optimale. Il nécessite le soutien du gouvernement, notamment le ministère de la Main-d'œuvre, le ministère de l'Industrie et le ministère de Recherche, de la technologie et l'enseignement supérieur. Ceci a été transmis par Trina Visanti en marge de l'exposé de politique de plaidoyer relatif au renforcement des capacités des experts locaux à l'IPI Jakarta jeudi. Selon elle, les travailleurs étrangers qui travaillent en Indonésie ont besoin d'être surveillés de sorte qu'on peut savoir leur existence. Nous sommes conscients qu'il est en effet nécessaire de surveiller la réglementation pour les travailleurs étrangers. Surveiller, ce n'est pas facile car ils sont assez répandus dans l'entreprise. Maintenant, que peut-on faire avec le nombre limité de personnel du ministère du Travail, les superviseurs? C'est la clé. Il y a combien de superviseurs du ministère de la main-d'œuvre? Si le nombre n'est pas assez, il n'y a pas de mal. S'il y a un indépendant qui fait cela, ce qui est important est la ligne directrice étant claire. Trina Visanti a expliqué que beaucoup de travailleurs étrangers en Indonésie ont des difficultés de communiquer avec les travailleurs locaux lorsqu'ils travaillent en Indonésie. Elle a demandé au gouvernement de régler ces problèmes en encourageant les entreprises qui emploient des travailleurs étrangers à apprendre l'indonésien avant de travailler. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, M. Enggartia Solukita, a déclaré qu'à l'ère de l'économie numérique, la présence du commerce électronique ou du marché se développait en Indonésie. Mais malheureusement, les produits vendus dominaient les importations par les produits nationaux. Selon lui, au moins, ce phénomène est vu à partir du nombre de ventes de biens dans un marché où enregistrer plus de 90% des biens vendus sont des biens importés. Il a été dit par Enggartia Solukita dans un séminaire sur l'économie numérique à Jakarta mercredi.
Benar bahwa masih sebagian didominasi atas produk-produk asing.
Il est vrai qu'il y a encore une certaine domination sur les produits étrangers comme ce qui est présenté par Blibli.com. Une reconnaissance honnête et j'apprécie que plus de 90% des produits soient vendus à l'étranger, dont seulement 10% sur les produits domestiques. Et cela aussi, nous devons les pousser pour que nos produits de IKM ou petites et moyennes entreprises veulent entrer. Peut-être ils ne savent pas comment le commercialiser et aussi pour le marché lui-même. Ils s'associent moins de ceux qui viennent en conformité avec les critères qu'ils définissent. Ils acceptent. Le ministre Enggartia Solukita a ajouté que l'Indonésie devrait être en mesure de profiter de la présence numérique en devenant un acteur, pas seulement le marché. Ceci est fait en encourageant la vente des produits nationaux sur le marché ou marketplace. Par conséquent, jeudi, son côté a tenu une réunion avec les acteurs de marché pour fixer les termes de la quantité des produits étrangers et locaux vendus sur le marché. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, en coopération avec le gouvernement de la Bulgarie, pour accroître la coopération dans le domaine du mix énergétique. Cette coopération vise à augmenter le mix énergétique renouvelable de l'Indonésie de 23% en 2025. Ainsi, en 2025, la capacité installée de production d'énergie renouvelable dans ce pays est de 45 000 MW. Actuellement, la capacité installée est de 7 500 MW. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, M. Ignatius Jonan, a déclaré à Jakarta jeudi que la coopération de Sustainable Off-Grid Electrification visait à augmenter l'énergie solaire qui pouvait être combinée et mélangée avec d'autres sources d'énergie électrique. Sur la base de l'énergie solaire, le projet futur utilisera l'énergie solaire comme complément aux transitions de l'énergie primaire. Le ministère du Tourisme estime que Lombok, Nusa Tenggara West, est prête à recevoir un forfait touristique de la délégation de réunion annuelle de la Banque mondiale Edu FMI Kesetiandra à Bali en octobre 2018. L'agent de développement du marketing du ministère des Affaires étrangères du Tourisme, M. Ingede Pitana Amataram, a annoncé jeudi la préparation de Nusa Tenggara West, notamment Lombok, peut être vue de l'infrastructure qui a été considérée comme bonne, le transport aérien et maritime, la bonne connectivité entre les régions. Le ministère du Tourisme a fixé 6 destinations qui deviennent le forfait touristique pour les délégués de la réunion annuelle de la Banque mondiale et du FMI, à savoir Bali Lombok, Bali Komodo, Bali Yogyakarta, Bali Toraja, dans le sud de Sulawesi, Jakarta Bali et Bali Laktoba, Sumatra du Nord. Afin de renforcer ces forfaits touristiques, le ministère indonésien du Tourisme, en collaboration avec le ministère de la Coordination des Affaires maritimes, a fait une recherche sur les forfaits vendus. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, je vais introduire la cuisine de Magelang, Java Central. Alors, restez avec nous à la Voix d'Indonésie par l'onde courte et aussi via www.voinews.id. Les craquelins sont des repas légers, généralement fabriqués à partir de pâtes de farine de tapioca mélangées avec les arômes tels que crevettes ou poissons. Les craquelins sont préparés à la vapeur jusqu'à ce qu'ils soient cuits, puis coupés finement, séchés au soleil et frits avec de l'huile de cuisson. La texture est croustillante et généralement utilisée en complément de divers aliments indonésiens. En plus de frire, les craquelins peuvent également profiter d'autres façons en habituelles, même transformés en un délicieux repas appelé capjaye de craquelin. Le capjaye de craquelin est l'aliment typique de la communauté de Magelang, Java Central. L'ingrédient principal de capjaye de craquelin est les craquelins qui ne sont pas encore frites. Nous pouvons utiliser n'importe quel type de craquelin qui est fait à partir de farine de blé. On peut utiliser des craquelins à l'oignon, des craquelins aux crevettes et autres. On peut utiliser les craquelins qui sont craqués, habituellement avec des craquelins craqués, les épices peuvent bien s'infiltrer. Il n'est pas compliqué de cuisiner les capjaye de craquelin. Avant la cuisson, les craquelins crus sont trempés dans de l'eau bouillie pendant la nuit pour qu'ils soient souples et tendres. Ensuite, les craquelins sont lavés et égouttés. Les épices composées d'ail, de noisettes, de poivre et de piment sont pourrées. Ensuite, le mélange des épices sont frites avec un peu de l'huile de cuisson et ajouter la sauce de soja, du chou et des oignons, y compris des craquelins crus. Maintenant, beaucoup de gens créent des capjaye de craquelin en ajoutant d'autres ingrédients tels que la viande de poulet, boulettes de viande, saucisses et carottes. Le chap jaya est délicieux. Cette cuisine est la plus délicieuse consommée avec du quiche, peut être consommée avec ou sans le plat d'accompagnement. Habituellement, les gens de Maglang mangent le chap jaya de Kraklang avec la bouillie de riz chaud. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à goûter cette cuisine, vous pouvez visiter la ville de Maglang, en particulier le village d'Ambertawang. Le prix d'environ 1000 à 2000 rupiah par portion. Serviteurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur ayant pour titre Te Kuntan. Bonne écoute. Le rambutan domine maintenant les magasins de fruits et les vendeurs de roux. La raison, la saison de rambutan indonésien est commencée, en particulier au village de Platak, le district Tahunan, Jepara, Java Central. La plupart des gens au village de Platak ont des arbres de rambutan. Voyant ce potentiel local, l'équipe du groupe de conférence de travail RIL ou KKN de l'Université de PGRI Semarang UPGRIS essaie de les développer en un produit de thé fabriqué à partir de l'écorce de fruits rambutan. Ce thé de l'écorce de rambutan s'appelle thé de Kuntan. La coordonnatrice étudiante de KKN UPGRIS du village Platak, Sumini Minawati, a expliqué: beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore les avantages de l'écorce de fruits de rambutan. Jusqu'à présent, après que le résident consomme du rambutan, son écorce est simplement jetée et devient un déchet. Pour cela, selon Mina, son côté a fait le traitement du thé en écorce de rambutan ou Kuntan au maire dans le village. Cette formation a eu lieu au centre du village de Platak. Mina a dit: la façon de faire du thé Kuntan est très simple. L'écorce de rambutan qui a été lavée, coupée en petits morceaux, puis séchée au soleil pendant 3 à 5 jours, dépendant des conditions météorologiques. Une fois sec, le thé Kuntan est prêt à être goûté selon le goût. En plus de transformer en thé, l'écorce de rambutan peut également être faite de sirop, tandis que les graines de rambutan peuvent être transformées en emping. Mina expliquait: les avantages de l'écorce de rambutan peuvent prévenir l'hypercholestérolémie, traiter la diarrhée, les antiradicaux libres, éloigner les cellules cancéreuses et peuvent être antioxydants pour prévenir le diabète. Parce que dans l'écorce de rambutan contient des flavonoïdes ou un type d'antioxydants, des tannines qui peuvent prévenir ou neutraliser les effets des radicaux libres dommageables, et les saponines sont bénéfiques pour stimuler l'immunité. En outre, l'extrait de l'écorce de rambutan a une valeur IC50 ou mesure de l'efficacité du composé dans la fonction biologique ou biochimique d'inhibition de 20. De sorte qu'il peut supprimer 50% de radicaux libres ou DWPH. Susi Kusumaningtyas, chef de l'autonomisation du bien-être familial au PKK du village Platak, a déclaré que la formation donnée par les étudiants d'UPGRIS au maire est très appréciée. en plus de fournir des informations sur l'utilisation de l'écorce de rambutan, cela peut avoir également la valeur économique. À l'avenir, ce produit peut être utilisé comme un produit supérieur de village platard. C'est la Indonésie encore pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonjour à tous, merci d'être fidèles à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique musicale. Et cette fois, nous allons vous présenter des chansons traditionnelles de Tidung en provenance de Kalimantan du Nord. Écoutons maintenant la première chanson intitulée Bebelin Chantefar Fika Julia. C'est l'une des chansons de Kalimantan du Nord en langue Tidung. Elle a été popularisée par la chanteuse de Malaisie qui s'appelle Siti Aisyah. La parole de cette chanson est commencée par le mot Inindang qui signifie chanter. Comme la chanson malaise en général, cette chanson est aussi arrangée comme des paroles de pantoune répétées et s'agit des suggestions pour obéir aux ordres ou bien au conseil des ancêtres, tel que le maintien de l'amitié. La chanson intitulée Bebelin a été popularisée à nouveau par Fika Julia, qui a un fort caractère vocal. C'est l'une des chansons régionales de l'album intitulé Tidung, qui est soutenu par le Conseil régional des arts du district de Tanah Tidung, la province de Kalimantan du Nord. Bon, chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons intitulées Gurindam de Bibil Umo, chantées par Fika Julia.
Musique.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons traditionnelles en provenance de Kalimantan du Nord, chantées par Fika Julia. Et c'était une chanson intitulée Gurindam de Bibil Umo, qui a été chantée par Fika Julia, a été publiée le 6e anniversaire du district de Tanah Tidung, Kalimantan du Nord en 2013. Gurindam de Bibil Umo est également inclus dans l'album Tidung. Cette chanson a été bien chantée par Fika Julia. La tribu de Tidung à Kalimantan du Nord est une tribu de Sabah, des Tuve Males trouvés en Indonésie et en Malaisie. Donc c'est normal que leur culture, y compris la chanson et la musique régionale, est assez influencée par le malais. La tribu de Tidung est musulmane, dont la loi et les coutumes et la malaise comme Banjar, Kutai et Suku Pasir. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter les deux dernières chansons chantées par Dindang Pagun et Berlayar Kunun. Tous les deux sont chantés par Fika Julia. Merci à tous et au revoir.
Jika lain tulus sama
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, duhai sayang, di tengah
écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. C'était des chansons traditionnelles, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.